Cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jodat, le 6 mai 1988.
L'avions la dernière fois rappelé la fameuse définition de saint Thomas de la vérité, adéquatio, l'adéquation de l'intelligence à la réalité. Si on précise en critique, on doit dire adéquatio de l'énonciation telle que l'intelligence la prononce et de la réalité. Parce que ce n'est pas de l'intelligence et de la réalité, mais de ce que l'intelligence a formé au plus intime d'elle-même dans le jugement, le concept complexe du jugement. Et le concept complexe du jugement, c'est justement l'énonciation. Et la vérité, c'est l'adéquation de cette énonciation et de la réalité. En ce sens que je sais que je dis vrai. Et je peux dire je sais que je dis vrai. Il y a dans toute vérité la conscience qu'on a d'être vrai, au moins de dire vrai, d'énoncer quelque chose de vrai. Donc il y a une réflexion sur ma propre activité, cette auto-lucidité, propre jugement. J'énonce quelque chose, je touche cette table, et je vous dis que je touche cette table, c'est vrai. Cette table est froide, que cette plaque est chaude. Vous voyez, donc on dit et on énonce quelque chose et on dit que c'est vrai. Vous voyez que cette manière de dire ce qu'est la vérité présuppose le jugement d'existence. Présuppose qu'on voit la différence entre ce qui est connu et la réalité. Or, ce qu'on appelle l'ontologisme habituellement, c'est justement qu'on ne voit pas la différence entre les deux. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a un premier ontologisme qui voit la différence. Mais le problème de l'ontologisme, habituellement, c'est justement que l'intelligibilité, ce qui est connu, et la réalité sont identiques. C'est ce que Kant critique. Donc il suffit de s'entendre sur les mots. Et reconnaître que de fait, on distingue le réel de ce qui est connu du réel. C'est ça que moi j'appelle le réalisme. Et vous voyez que cette définition donc de la vérité s'applique immédiatement au jugement d'existence, du moins à toute expérience qui implique le jugement d'existence. Puisque je suis capable de me dédoubler en voyant que ce que j'énonce, c'est ce que j'ai compris, et je suis capable de mettre en parallèle ce que j'ai compris et la réalité. La réalité existante. La réalité et mesure de ce que j'ai compris, mesure de mon intelligence. Donc, dans la réalité, quelque chose de premier. Avant ma connaissance, il y a la réalité. C'est pour ça qu'hier, on parlait du concept. Or, souvent, quand on dit une philosophie conceptuelle, on considère que le concept est premier. Alors que là, il reconnaît que le concept est second. Et quand j'affirme justement que la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence et de la réalité, je reconnais que mon concept complexe de l'énonciation est quelque chose de relatif à la réalité. À quel moment puis-je comprendre que ce que je conçois de la réalité et relatif à la réalité, je le conçois au moment où j'ai saisi le jugement d'existence. Tant que je n'ai pas saisi le jugement d'existence, je ne peux pas saisir cette dualité. La condition sine qua non pour comprendre que la réalité est capable de mesurer mon énonciation, c'est le jugement d'existence. Il existe quelque chose d'antérieur à ma connaissance. Et ma connaissance est déterminée par ce quelque chose. Et ce quelque chose demeure toujours premier et donc peut-être mesure de ma connaissance. Oui. Essayez de comprendre les conditions nécessaires pour que cette définition de saint Thomas puisse être comprise. Il faut reconnaître la primauté du réel existant par rapport à ce que j'énonce. Et reconnaître la primauté du réel existant par rapport à ce que j'énonce implique le jugement d'existence, puisque c'est le jugement d'existence qui est le premier moment où justement je reconnais que la réalité existence est première par rapport à ma connaissance et que ma connaissance est toute relative à cette réalité. Bon, ça je crois qu'on peut le saisir assez facilement dès qu'on a saisi le jugement d'existence. Mais vous voyez bien tout de suite ce que ça présuppose. Je me souviens que c'était toujours l'objection certains étudiants de Fribourg, quand on disait ça, mais je ne comprends pas, puisque si vous dites que la réalité mesure, il faut donc que vous la connaissez. Alors comment pouvez-vous dire que ce que vous connaissez est mesure de ce que vous connaissez? Vous voyez l'objection? Quand vous dites que l'intelligence adéquate à la res. Adéquation. Donc, que ce que j'énonce, c'est l'intelligence qui énonce, qui juge. Il n'y a pas de vérité en dehors du jugement. Donc, ce que l'intelligence énonce est adéquat à la réalité. Pour dire ça, il faut donc connaître cette réalité. Autrement, je ne peux pas, je suis devant un mur. Donc, il faut connaître cette réalité pour pouvoir parler d'adéquation de l'intelligence de ce que je connais avec la réalité. Donc, je dis que ce que je connais est adéquat à une autre réalité que je connais. Oui, une petite objection, c'est intéressant à s'imposer. Alors, il faut comprendre. Je connais ce que j'énonce autrement que la res à laquelle je me réfère. Tout de suite. Il y a une réalité première et je reconnais que la res est première. Mais pour reconnaître que la res est première, il faut la connaître. Comment voulez-vous reconnaître que la res est première si c'est X ? Je ne connais pas, un inconnu. Je ne peux pas mettre en adéquation ce que je connais avec l'inconnu. Donc il faut connaître la res. Or, je reconnais que cette res est mesure, qu'elle est première. Donc elle est irréductible à ma connaissance. Si elle n'est pas irréductible à ma connaissance, elle ne serait pas mesure. Je vois donc tout de suite, et c'est ça qui est très important, je vois donc tout de suite que la réalité, par rapport à ma connaissance, peut jouer un double rôle. Cette réalité peut spécifier mon intelligence, et cette réalité peut jouer le rôle de mesure. En tant qu'elle spécifie, elle est objet. L'objet, c'est ce qui spécifie. En tant qu'elle est mesure, elle existe. Une existence antérieure. Une existence première. Oui, c'est très important de bien saisir ça.
En fait, c'est toujours par rapport au
jugement d'existence. Ah, toujours. Mais n'importe quel autre jugement impliquant le jugement d'existence. Cette table est blanche. Vous me parlez. Je dis à tous les autres, vous me parlez. Je peux certifier qu'il m'a parlé. Donc c'est un jugement d'existence qui est impliqué dedans. Toute référence à la réalité. Ce que je veux montrer, c'est que très bien, vous voyez, ça aurait été très intéressant de creuser ça, on le fera une autre fois, pour montrer que accepter cette définition de saint Thomas, c'est accepter le réalisme. La réalité spécifie ma connaissance, mon intelligence.
Mais ça, c'est pas sous le mode de l'abstraction et donc de l'appréhension.
Mais tout à fait, c'est ça qui est intéressant à voir. Oui, si je ne fais pas la distinction entre appréhension et jugement, la définition de saint Thomas ne signifie rien. Oui. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est que la réalité est objet. Elle spécifie quoi ? Mon appréhension. Et le contenu du jugement implique l'appréhension. Vous voyez ? Et le sens, la signification, elle vient de la spécification. Et la réalité, en tant qu'elle existe, ne spécifie plus, mais elle mesure. Donc, pour que je comprenne la définition que donne saint Thomas, que la vérité adéquatio intellectus ad rem, il faut nécessairement que j'ai compris que l'intelligence a une double approche du réel. Une approche, j'allais presque dire, inconsciente, voyez, et spontanée, qui est l'appréhension. Et une approche consciente qui est le jugement. Par le jugement, j'affirme que cette réalité existe antérieurement à ma connaissance. Et que cette réalité est capable de spécifier ma connaissance. Et que cette spécification, dans la mesure où elle est parfaite, implique d'être vérifiée, mesurer à la réalité. Donc, il y a nécessairement une double approche de la réalité, appréhension, jugement.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que la signification est plus que la spécification, alors que la signification demande d'atteindre son existence ?
L'appréhension implique le jugement, donc l'exister. La signification implique toujours l'exister. Pas nécessairement, puisqu'il y a abstraction, puisqu'il y a formalisation, blancheur. Blancheur est en référence avec blanc, mais blancheur garde sa signification, même avec l'abstraction formelle, blancheur. Blancheur a une signification. La signification va plus loin, vous voyez, que le point de vue du jugement d'existence. C'est ce qui permet les déraillements. Oui, si la signification était toujours lié explicitement au jugement d'existence, il n'y aurait jamais de déraillement. C'est-à-dire, je ne serais jamais un idéaliste. Ce que j'appelle un déraillement. Mais parce que la signification peut se formaliser, ce qu'on appelle la thématisation. Vous voyez ?
Est-ce qu'elle est plénière si elle se thématise ?
Non, elle n'est pas plénière. Elle est partielle. Mais elle est signification. En tant que signification, les significations. Blancheur a sa signification. Il n'y a pas que blanc qui a sa signification. Blancheur a sa signification. Il n'y a pas que ens qui a une signification. Il y a aussi sc. Et c'est la même signification. Blanc, blancheur. Quand je suis devant blanc et blancheur, je suis devant la forme. Et la forme a une signification. Signification formelle. Et cette signification formelle est liée au jugement d'existence. Mais liée en acte au jugement d'existence, mais pas explicitement. Puisque je formalise exprès. Donc en formalisant, je mets en pleine lumière cette forme avec sa signification propre. Au point de vue de la signification de blancheur est plus pure que la signification de blanc. Oui. Oui. Qui n'est pas antérieur, qui est une connaissance.
Alors quel est ce contact de l'intelligence qui est antérieur à toute connaissance?
Mais c'est antérieur à toute connaissance, il n'y a pas. L'intelligence ne peut être en contact avec le réel que par une connaissance. Il ne peut pas être autrement. Il peut y avoir un éveil, un réveil de la connaissance par le point de vue sensible. Donc, il y a une connaissance qui peut génétiquement être antérieur à l'intelligence. Je crois que c'est possible. L'enfant qui touche, ce qui a tout de suite la connaissance intellectuelle, il y a tout de suite embryonnairement, je crois. Tout de suite.
Est-ce qu'il n'y a pas ce premier jugement d'existence qui n'est pas conscient?
Il peut y avoir un premier jugement d'existence non explicitement conscient. Oui. C'est par là que la réalité de fait est mesure, mais ce n'est pas explicité. Ce ne sera explicité que quand j'atteins la vérité. La vérité explique, la vérité explicite la primauté de la réalité existante avant l'intelligence, avant la connaissance. Ça explicite ça. Adéquatio intellectus ad rem. C'est pas une saisie, c'est un toucher. Tingain, un toucher du réel existant, qui est encore confus. Quoi ? Il n'est pas entièrement conscient, parce qu'il y a un éveil. Oui. Un premier d'ordre génétique, pas d'ordre nature. Parce que la connaissance sera parfaite que quand elle est vraie, et que quand elle énonce la vérité. La vérité, c'est la perfection de ma connaissance intellectuelle. Et dans cette connaissance intellectuelle parfaite, je saisis dans l'unité la dualité. Puisque je saisis ce que j'énonce, et que cet énonce est mesuré par le réel. Donc, il y a une dualité dans la réalité, dans l'unité. Vous voyez bien ça, hein ? Ça c'est capital. Le concept
de l'idée pour définir l'intellectus. Hier.
Je n'ai pas entendu. Non, il n'a pas parlé d'idée, justement. J'ai remarqué, j'avais envie de lui demander s'il faisait la distinction entre idée et concept. J'ai remarqué qu'il parlait toujours du concept. Oui. Oui. Qu'il n'y avait pas d'idée de Dieu. Que c'est un concept, qu'il n'y avait pas d'idée de Dieu, ce qui est tout à fait juste. Oui, mais il y a un concept. Alors, qu'est-ce qu'il mettait exactement entre idée et concept? J'aurais voulu lui poser la question, mais on n'a pas eu le temps. Ça ne fait rien. Oui. Mais l'idée est apparue avec Descartes. Avant, on parlait de concept. Et on parlait d'idéa pour la connaissance artistique. Oui. Alors, avant Descartes, le concept, c'est un quo, et l'idéa, c'est un quad. Qu'est-ce que ça veut dire? Le concept, c'est ce par quoi je connais, Et l'idée, c'est ce qui est connu. Bon. Oui.
Pardon, est-ce qu'en saisissant l'être, je saisis en même temps l'œuvre, le nécessaire et la chose?
Forcément. Et puis j'explicite après.
Et quel ordre il y a entre eux?
Pour nous, pour saint Thomas, c'est l'être qui est saisi en premier lieu. Et l'un est saisi en même temps. C'est sûr. On ne peut pas séparer l'être de l'un. C'est inséparable. Mais il est connu implicitement, pas explicitement. Vous voyez? Et toute la métaphysique, c'est pour connaître. C'est pour expliciter l'un de l'être. Vous pouvez dire ça, vous voyez? Que toute la métaphysique, elle est faite pour ça. Puisque le jugement métaphysique, scientifique, c'est de dire que l'un est acolyte de l'être. Donc c'est pour expliciter le genre de séparation, du moins le genre de distinction exacte qui existe entre l'être et l'un. Donc, jugement d'existence qui implique, si ce jugement d'existence est parfait, la vérité. Et la réalité est mesure. Alors maintenant, nous allons regarder successivement les différents jugements pour voir dans ces différents jugements comment se comporte la vérité. Pour avoir une saisie analogique des différents niveaux de la vérité. Des différentes modalités de la vérité. Alors, qu'est-ce que j'avais donné comme jugement? Vous allez me dire successivement. Donc ça, c'est le jugement d'existence. Second. Le quoi? Tout de suite, le jugement prudentiel, non? Non, j'avais dit le jugement des principes, je crois. La saisie des principes. Principe propre, vous voyez, autrement dit, c'est l'induction, vous voyez, je pars de l'expérience et puis j'aboutis au principe propre. Hein? C'est dans un jugement que je saisis un principe propre, par exemple, si vous voulez, je prends celui que vous connaissez très bien, que vous avez tous très bien saisi, la cause, la substance, et cause selon la forme de ce qui est. Principe propre. Substance et cause propre selon la forme de ce qui est. Hein? Nous acceptons tout ce principe, hein? Au moins quant aux legaine. On l'accepte tous. Quelle est la vérité contenue dans ce jugement? Eh bien, comment je peux dire? Je vous dis que la substance est la cause propre selon la forme de ce qui est. Je vous dis que ce principe est vrai. J'ai devant moi un positiviste qui n'accepte pas les principes. Il dit, mais mon père, comment pouvez-vous dire que c'est vrai? Montrez-moi que c'est vrai. Le jugement d'existence, je peux montrer la table. Quand même, vous acceptez que cette table est là. Venez la toucher. Attendez, je ne l'ai pas encore touché, les martiens. Je peux en avoir eu peur, mais je ne l'ai pas touché. Le jugement... Elle est montrée le moi. Aristote dit qu'un principe porte en lui-même sa propre vérité. Je ne peux pas justifier un principe. Je le saisis ou je ne le saisis pas.
On ne peut pas le justifier par l'induction.
C'est l'induction qui me l'a fait découvrir.
Mais on ne peut
contradiction de principe. Si vous servez de justifier quelque chose qui vous a servi de la découvrir, c'est l'aller-retour. Je suis d'accord avec vous, on peut le manifester par l'induction. Il faudrait plutôt dire manifester que justifier, vous voyez. Puisque c'est l'induction qui me fait découvrir. Alors qu'est-ce que vous diriez? Puisque ben, je suis bien obligé de reconnaître que un jugement de principe propre, il est vrai, quoi, ce principe, il est vrai. Et quand je dis que la substance est cause propre de ce, selon la forme de ce qui est, je dis quelque chose de vrai. Et j'ai conscience que c'est vrai. Adéquatio intellectus ad rem. Et comme c'est intéressant, hein, tout de suite. Quelle est la mesure du principe? Du principe philosophique, hein? C'est la réalité. Cause propre selon la forme de ce qui est. Ce qui est, c'est la res. Alors, comment cette affirmation est-elle mesurée par la res? C'est ça. Ce principe, il est énoncé. Il est énoncé comme, alors l'induction, comme provenant de la res. C'est évident, il est contenu dans la res. C'est pas mon intelligence qui a revêtu la réalité de quelque chose d'autre. C'est l'intelligence qui, en analysant la réalité, découvre que la réalité contient ce principe. Que ce principe, il existe dans la réalité. Il existe dans l'homme. La res ici, c'est l'homme. L'homme existant. Pierre, Jacques et Jean. Alors, comment comprendre la vérité d'un principe propre? L'énonciation d'un principe, vous voyez comme ça devient très subtil. C'est très vrai que c'est la réalité qui est la mesure, puisque c'est de la réalité que je saisis ce principe propre. Et donc, si c'est de la réalité que je saisis ce principe propre, et si ce que j'énonce est vrai, c'est donc bien la réalité qui est la mesure de ce principe. Mais attention, je l'ai induit. Donc, ça présuppose une analyse. Ce principe n'est pas toute la réalité. Tandis que quand je dis ceci est, c'est toute la réalité. Ce principe exprime un aspect. Et parce que c'est un principe, ça exprime quelque chose de primordial de la réalité. C'est pas toute la réalité, mais c'est la partie principale. Puisque c'est un principe. C'est la partie principale, c'est une cause. Donc, c'est l'aspect premier de la réalité. C'est bien cet aspect premier, fondamental, indivisible. Et je précise, cause selon la forme. Donc, c'est la détermination radicale de ce qui est. Comme principe selon la forme. Vous voyez que c'est pas commode, hein, avoir la vérification d'un principe. Un positiviste dira, mais moi je vois la réalité existante, je vois pas tout ça. Alors, on va dire, vous acceptez, au point de vue biologique, qu'on fasse une analyse. Peut analyser le corps humain. Et un positiviste l'accepte parce qu'il le voit. Pourquoi n'acceptez-vous pas qu'il y ait une analyse au niveau proprement de l'être? Et au niveau de l'être, je peux très bien saisir la complexité d'un être existant et saisir dans cette complexité ce qu'il y a de premier. Le principe. Or, c'est justement ce que j'énonce en disant que la substance est principe selon la forme de ce qui est. Je saisis quelque chose de premier dans l'ordre de l'être par rapport à la réalité. Et ce premier, je dis qu'il est vrai, qu'il est adéquat à la réalité. Donc, la mesure d'un principe, c'est bien la réalité expérimentée. C'est bien l'homme existant. Mais je vois que cette adéquation n'est pas immédiate. Je ne peux pas immédiatement voir que mon principe est conforme à la réalité. Il y aurait une lecture immédiate à ce moment-là de la réalité. Il n'y aurait plus d'induction. Je saisirais la réalité telle qu'elle est. Or là, j'ai conscience d'avoir analysé cette réalité et au terme de l'analyse, d'avoir saisi ce qui était irréductible à l'analyse, ce qui était au-delà de l'analyse, donc ce qui était premier. J'ai conscience de cela, puisque j'ai induit. Donc la réalité n'est pas immédiatement mesure. La réalité est mesure de ce principe en tant que j'ai analysé cette réalité. Et je l'ai analysée grâce à l'interrogation. Qu'est-ce ? Qu'est-ce selon la forme ? C'est donc par l'intermédiaire de l'induction et donc de l'interrogation que je peux voir l'adéquation de ce que je saisis avec la réalité. La vérité n'est donc pas immédiatement l'adéquation, elle est l'adéquation par l'intermédiaire de l'analyse. Si j'accepte pas l'analyse, je ne vois pas l'adéquation. Si j'accepte l'analyse, je vois qu'en effet, la réalité contient cela. Autrement, c'est virtuel. Donc vous voyez, comme c'est subtil, adéquation intellectus ad rem. Oui, adéquation intellectus ad rem, en passant par l'analyse. Et en acceptant l'analyse. Et dans cette analyse, qu'est-ce qui joue le rôle de métaxu ? C'est l'interrogation. Donc, c'est l'interrogation qui va me permettre de voir l'adéquation. Qu'est-ce que la réalité ? Du point de vue de l'être. Et c'est par cette interrogation que je vois que la réalité mesure bien l'énonciation de mon principe. Et ça, c'est assez subtil. Je crois qu'on ne peut pas s'en tirer autrement. Oui.
Est-ce qu'on peut dire, en fait, que par l'interrogation, on sépare la matière de la forme et qu'on garde la forme dans le...
Disons pas qu'on sépare, qu'on distingue.
Donc, qu'on distingue.
Oui. Qu'on distingue la matière de la forme, c'est sûr. Si je n'interrogeais pas, je ne ferais pas la distinction. Donc l'interrogation... C'est le levier qui permet de faire ça. Vous voyez ? Il faut quelquefois lever une pierre pour la diviser. Si je ne la lève pas, je ne vois pas. Alors ce levier, c'est l'intelligence elle-même qui le fait, qui le produit. Et on dirait dans un langage moderne qu'on met la réalité sous un prisme particulier pour pouvoir voir en elle certaines choses qu'on ne voit pas autrement. Et grâce à l'interrogation, je me suis élevé suffisamment haut pour voir cette distinction. Mais l'adéquation n'est pas immédiate. Parce que c'est une adéquation partielle. peux pas dire que la substance, c'est la substance comme principe, c'est toute la réalité. Non. La substance comme telle n'existe dans la réalité que comme une source, selon la forme de ce qui est. Je crois qu'on ne peut pas dire autrement. Parce que c'est une question qu'on ne se pose jamais. On dit tout simplement, le principe, il est vrai, oui, mais adéquation intellectus ad rem. Je peux dire aussi, bon, ça c'est la première approche, hein. Je peux dire aussi que le principe contient en lui-même son critère de vérité. Mais je crois qu'on doit d'abord dire ce que j'ai dit, pour qu'on puisse affirmer ça. Que le principe contient en lui-même son critère de vérité. Alors vous voyez, ça modifie complètement la définition de la vérité. Analogiquement, c'est toujours l'adéquation de l'intelligence à la réalité, mais il faut bien comprendre, la réalité à ce moment-là, c'est quoi ? Mais c'est justement la substance en tant que cause. La substance en tant que cause, elle existe dans la réalité et non pas dans mon intelligence. Donc le principe, un principe propre au plan philosophique, est à lui-même son propre critère de vérité. Il est à la fois ce qui spécifie et ce qui mesure. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à saisir. Et pourtant, il faut aller jusque-là. Quand je saisis un principe philosophique, je le saisis à la fois comme ce qui détermine mon intelligence et ce qui mesure mon intelligence. Ce n'est pas contradictoire. Pourquoi ? En tant qu'il détermine mon intelligence, il est premier. En tant qu'il mesure mon intelligence, il est lié au jugement d'existence. Il existe. Dans la réalité. Et alors à ce moment-là, je comprends très bien, un principe en lui-même, on le saisit ou on ne le saisit pas. Donc il est à lui-même son propre critère de vérité. Et c'est le privilège du principe. Et ça c'est rude, hein. Parce que vous êtes obligé de dire à quelqu'un, vous ne le saisissez pas. J'en peux rien. Et alors, c'est un tout petit peu trop aristocratique dans un monde démocratique. Vous ne saisissez pas, tant pis, voulez-vous. Je passe. Je ne peux pas vous donner plus. Oui.
Quelle est la place de la manière d'exister de la substance, la subsistance
dans
la subsistance, quelle place est-elle dans...
C'est la substance qui subsiste. Non, parce que c'est la substance elle-même que j'énonce dans le principe. Vous voyez ? Alors, dire que la substance subsiste, très bien, je le dis tout de suite. Mais ici, je cherche le critère de vérité de mon principe. Vous voyez ? Alors, je suis d'accord avec vous, c'est que, puisque la substance subsiste, elle est reliée au jugement d'existence. Par le point de vue du mode particulier de la substance. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que, au plan de la vérité, un principe possède en lui-même son critère de vérité. Oui. Oui, c'est pour ça que je reviens à la substance, c'est pour ça que ça ne m'avance pas beaucoup. Vous voyez ? C'est la substance qui subsiste. Mais ça peut expliciter, voilà, tout simplement. Mais ça n'avance pas. Ce qui est très difficile, au plan critique, c'est de voir qu'un principe possède en lui-même son critère de vérité. De quelle manière ?
Elle a que sa référence à elle-même ?
Hein ?
À l'idée du philosophe ?
Non, alors c'est un autre critère. C'est le critère qu'on verra pour les connaissances mathématiques. On va y arriver, ça. Vous voyez ? Le principe possède en lui-même son critère de vérité. Pourquoi ? Parce qu'il est relié à ce qui est. Vous ne pouvez pas dire ça de l'idéologie. Oui. Tandis que le principe est, possède en lui-même son critère de vérité, parce que je l'ai saisi dans la réalité, et qu'il reste lié au jugement d'existence. Un principe ne peut pas se séparer du jugement d'existence. Autrement, ce n'est plus un principe propre. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'elle est à lui-même son propre principe. Vous explicitez pourquoi, parce que c'est la réalité. C'est pour ça que je dis, vous voyez, quand Aristote dit l'être à l'homme, je dis l'être au principe. Et le principe porte en lui-même cette exigence d'être. La substance subsiste.
Oui. C'est ça qui apporte à l'argumentation a posteriori son validité.
Oui, tout à fait. Bon, vous voyez donc, c'est simplement ce que je veux vous montrer, c'est que chaque fois, la définition de la vérité prend un mode particulier. Je ne peux pas définir de la même façon la vérité du principe et la vérité de l'expérience. Et on va voir ça chaque fois. Le critère de vérité se modifie. Pour le principe, le critère de vérité, c'est le principe lui-même, en tant qu'il est rattaché au jugement d'existence. Le critère de vérité du jugement d'existence, c'est la réalité, en tant qu'elle existe. Ça, c'est toujours très intéressant. Et chaque fois, je retrouverai quelque chose d'analogue, cette relation à l'exister.